Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de Ev Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Zana. Tragique fantasme du Caucase.
Imaginaire. Au cours des millénaires qui précèdent l'apparition du Seigneur des Anneaux ou la sortie de Warcraft, les hominines se sont progressivement forgés des imaginaires pour décrire les régions qui leur restent inaccessibles. Les océans, les fleuves, les forêts, les montagnes et les déserts sont des lieux de vie pour d'innombrables êtres vivants homininoïdes et organisés en sociétés distinctes ou parfois solitaires. L'expansion des hominines à travers le globe terrestre a mis à mal ces univers parallèles. Le développement de la navigation a fait chavirer les mythes des sirènes et des monstres marins. La déforestation est venue à bout des lutins, des fées et des magiciens. L'urbanisation galopante a expulsé et rasé des villages entiers de gnomes. L'électrification a emprisonné les trolls. Les animaux fantastiques se sont éteints. L'exemple le plus connu est celui des Tanuki. Dans le documentaire Pompoko en 1994, qui relate la tentative de les exproprier en 1960 et la résistance menée grâce à la peau de leurs testicules, multifonctionnels, extensibles et indestructibles. La protivophilie réaffirme ici qu'il n'est pas plus risible de croire en ces mythes qu'en une quelconque divinité, à des prophètes ou à des miracles. Mais pas moins non plus. L'humour est toujours relatif, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a toujours pas plus de preuves sur l'existence de Dieu que sur Gollum et son précieux, ou les pères Noël et Fouettard.
Dieu nie le monde. Et moi, je nie Dieu. Vive rien, puisque c'est la seule chose qui existe. Albert Camus.
Les hominines sont de très petits animaux en comparaison des dimensions du globe terrestre. Malgré leurs artifices techniques, l'immensité des océans reste encore inexplorée et les zones difficilement habitables, telles les déserts et les montagnes gigantesques, sont toujours des lieux d'histoire fantastique. La diversité des mythes des hominines désigne par une multitude de noms des êtres vivants dans les hauteurs enneigées ou les vastes forêts d'altitude. Plus d'une trentaine à travers le monde, dont les plus connus sont le Yeti himalayen et le Bigfoot nord-américain.
chantant le yéti yodelé dans l'Himalaya. Caché tout en bas dans la vallée, il ne me voit pas. Yéti, yéti, es-tu? Yéti, yéti, où es-tu? Yéti, yéti, es-tu? Yéti, yéti, que fais-tu? J'apprends le yiddish en mangeant mon yaourt.
Les récits et témoignages qui mentionnent depuis des siècles ces êtres mystérieux parlent de formes homininoïdes de grande taille et partiellement recouverts de pelage. La couleur de celui-ci est différente selon les régions du monde, plutôt blanche dans les zones enneigées, plutôt brune dans les zones forestières. Les descriptions sont très floues et les rencontres éphémères. Il n'existe aucune photo et les quelques représentations sont des dessins réalisés d'après les témoignages ou les divagations de l'artiste. Aucun objet, aucun cadavre, rien ne vient étayer leur existence réelle. Il en est ainsi pour toutes les créatures des mythologies des hominines. Pas plus de nouvelles de Bourak, l'âne ailé de Mahomet, prophète des Mahométiens, que de Pégase, de l'Antiquité grecque, ou des licornes de Mon Petit Poney. Idem des géants bibliques, des hommes sans tête de Marco Polo, de la bête du Gévaudan ou du tigre Grégory. Pour mémoire, le seul tigre qui ne sait pas nager.
Nous, les monstres goulus, avachis contre une guerre, interdites aux créatures, aux formes folles et criminelles, invitons d'autres espèces à faire emploi de leurs atouts. Des lambeaux fantastiques, une éclosion statique, d'autres visions sur les couleurs et des odeurs sensuelles.
Où se cachent les mutants? Les bêtes informes ont-elles disparu? Où se cachent les mutants? Les bêtes informes ont-elles disparu?
À partir du XVIIe siècle, les démarches scientifiques s'emparent de ces récits. Au cours des siècles, des expéditions se montent à la recherche des êtres mythologiques. Conformément aux sciences de leur époque, encore balbutiantes dans le domaine du vivant, des hominines voient dans ces homininoïdes le chaînon manquant entre les grands sages et les homo sapiens. Ce modèle explicatif, dit transformiste, est par la suite invalidé par l'approche évolutionniste. Il persiste encore de nos jours dans une représentation populaire du progrès qui montre une suite de personnages allant du petit singe se transformant progressivement en un hominine homo sapiens, ou dans l'affirmation erronée que l'homme descend du singe. Aussi saugrenue puisse-t-elle paraître, cette hypothèse du chaînon manquant tente de répondre à des problématiques avec les outils disponibles, la biologie naissante et la religion omniprésente. De la même façon que les théories sur des continents engloutis s'expliquent par la volonté de comprendre les similarités de faune et de flore dans des régions très éloignées à une époque où la dérive des continents est encore loin d'être une théorie. Les représentations du chaînon manquant se conforment à l'image que se font les préhistoriens du XIXe siècle des hommes préhistoriques.
Les nouvelles découvertes d'ossements et les progrès technologiques au cours des 20e et 21e siècles ont permis d'étoffer les scénarios sur l'évolution des hominines. malgré l'obstruction des religions, qui persistent avec leur théorie créationniste. Les premiers schémas simplistes et linéaires, de type arbre de l'évolution et sortie unique d'Afrique, ont laissé place à des visions plus buissonnantes et des hypothèses multiples quant aux modalités de sortie. La diversité des squelettes disponibles permet aujourd'hui d'identifier plusieurs types d'hominines et de supposer que les croisements génétiques se font tout autant en Afrique que dans le reste du monde, à différentes époques et sans suivre de schéma systématique. Telle une belle bande de bâtards, l'être humain, Homo sapiens actuel, est l'unique espèce survivante et génétiquement héritière de tous ces hominines. Les nouvelles théories sur l'évolution ont réactivé, bien malgré elles, les croyances sur le chaînon manquant, qui voit dorénavant une survivance d'une espèce d'hominine injustement décrétée disparue ou non encore identifiée. Malgré quelques rares témoignages récents, il est toujours impossible d'en apprendre plus sur les mœurs du chaînon manquant. Sa vie sociale, sa sexualité ou ses croyances. Que pense-t-il de Michel Onfray ou du dernier Booba ? Le mystère demeure et la traque continue. Star discrète, fuyant les endroits people, nous ne disposons toujours que de photographies floues et les seules apparitions se font sous le masque de la fiction et des effets spéciaux. Des analyses récentes sur des échantillons récoltés dans le Caucase et prétendument d'origine inconnue n'ont pas permis de mettre en évidence une quelconque preuve de l'existence d'un chaînon manquant ou d'un ancien hominine. Tout au plus ont-elles relancé l'hypothèse sur des espèces de grands ours non répertoriés apparentés aux ours polaires et sylvestres.
On se demande qui c'est-il. Des trucs comme ça, il n'y en a pas par ici. À vue de nez, ça ressemble un peu au Yeti. En moins gros et en moins dégourdi. À chaque pied, il y a une planche. Et ça tient dans la main un bâton. Ça dégringole comme une grosse avalanche. Planquez-vous, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient tout droit. On se croirait au sommet de l'Himalaya. C'est l'abominable femme des neiges, dans son ensemble en fourrure de courage. Si tu la vois, que le ciel te protège. Elle skie pour la première fois. C'est l'abominable femme des glaces. Quand elle descend, il lui faut toute la place. Où elle passe, plus personne ne passe. Elle est toujours la première en bas.
La cryptozoologie recherche les formes de vie, animales ou végétales, dont nous ne disposons que de témoignages et dont aucune preuve tangible de l'existence n'a été clairement établie. De l'agneau végétal de Tartarie au bonacon, le taureau péteur, en passant par Nessie, le monstre du lac, ou le poisson évêque, mi-hominine, mi-poisson, habillé en évêque. La dernière expédition française à la recherche de l'almasti caucasien dans la région russe de Kabardino-Balkarie est organisée en 1992 par la cryptozoologue franco-russe Marie-Jeanne Kaufmann. Un peu comme elle le ferait avec les hallucinations de Bernadette Soubirous pour obtenir un portrait robot de Marie la Vierge, mère porteuse du Messie des chrétiens, Marie-Jeanne recueille les traces, les témoignages et les légendes et dresse un tableau de ce yéti local. A-t-elle face à elle des mythomanes qui obtiennent une reconnaissance sociale par leur histoire, des hominines victimes involontaires de phénomènes hallucinatoires, de troubles psychologiques ou de gros consommateurs de rhododendrons ou d'azaléponiques? L'almasti est une grande créature, mi-hominine, mi-bête, de plus de 2 mètres, à la peau foncée et au pelage long, roux ou noir. Ses yeux jaunes-rouges aux pupilles verticales sont adaptés à la vision nocturne. Les grognements sont les seuls sons qui sortent de sa gueule à la dentition particulière. Des témoins mentionnent aussi des almastis de petite taille. Des enfants ? Si la plupart des rencontres restent lointaines, quelques récits parlent de tête-à-tête fortuits et éphémères. L'almasti maîtriserait le feu. Selon la cryptozoologue, l'almasti n'est pas dangereux pour les hominines. Je ne l'ai jamais entendu parler d'une agression vis-à-vis de l'homme. Pour certains, il peut se rendre invisible. Afin de donner une caution scientifique, le documentaire humoristique Almasti, Yeti du Caucase, consacré à l'expédition de 1992, précise que si l'Almasty réussit si bien à se dissimuler, c'est une preuve de sa grande intelligence et de son refus du contact. Toutes les expéditions parties à la recherche de ce chaînon, ces deux derniers siècles, se sont soldées par des échecs. Rien de plus.
Caucase ? Conséquence de la rencontre des plaques tectoniques arabiques et eurasiatiques, la chaîne montagneuse du Caucase s'étend sur plus de 1200 km entre les mers Caspienne et Noire. La partie orientale, la plus basse, est plutôt sèche. La centrale est faite de hautes montagnes et de sommets enneigés culminant à 5600 mètres d'altitude. Et la partie occidentale est une zone de forêt. La géopolitique moderne divise le Caucase entre, au sud, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie et les pays non reconnus, le Haut-Karabakh, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Au nord, la Russie et ses nombreux découpages administratifs, tels le Daghestan, l'Ossétie du Nord ou la Tchétchénie. Depuis des millénaires, les hominines s'installent dans les innombrables vallées et les plaines des versants nord et sud de la chaîne montagneuse. Des royaumes s'y sont constitués, des empires s'y sont échoués, et des populations s'y sont réfugiées. Selon des mythes de l'Antiquité grecque, le Caucase est une escale pour Jason et ses argonautes dans leur périlleuse quête de la toison d'or, et aussi le lieu de supplice de Prométhée, condamné à avoir son foie dévoré jusqu'à la mort et à revivre éternellement cette torture pour avoir offert la connaissance du feu aux hominines. Dans les recoins et des étendues caucasiennes, des sociétés se constituent. En parallèle des centres urbains qui s'érigent, la géographie du Caucase favorise l'éclosion d'une multitude de communautés éparses. Certaines sont très isolées et participent peu aux échanges commerciaux ou culturels avec les villages et villes de la région. La chaîne montagneuse du Caucase et ses deux versants abrite plus d'une centaine de pratiques linguistiques différentes, certaines parlées par une centaine d'hominines seulement, une copieuse Macédoine. Leurs origines et leurs influences sont multiples. Des cultures singulières se sont forgées le long des méandres et des vallées profondes. Cette chaîne montagneuse est une vraie cour de récréation pour les linguistes et les anthropologues, voulant étudier par exemple les mœurs des Juifs des montagnes, interroger le dernier locuteur du Loubik, identifier une nouvelle langue ou en exhumer une antique, ou bien encore converser avec des mystiques de tout poil. Les mythologies des Moïsiens, des Chrétiens, des Mahométiens et des Bouddhiens imprègnent la vie sociale des hominines du Caucase, parfois de façon peu orthodoxe. On recense un bon nombre de témoignages de voyageurs européens passés par là.
Imaginez. Les scénarios scientifiques actuels sur le peuplement de la planète sont encore incertains. Les vagues successives et désordonnées d'hominines quittant le continent africain s'échelonnent sur plusieurs dizaines de millénaires. Les recherches en génétique ne permettent pas encore d'établir de schémas ou de parcours précis pour expliquer la présence hors d'Afrique de populations qualifiées de « noires » dans le sud du globe, que ce soit dans l'archipel d'Andaman et Nicobar, en Papouasie, en Australie, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande ou en Inde. Il en est de même avec les populations à la peau noire peuplant les rivages de la mer Caspienne et la mer Noire. La plus ancienne mention de telles populations dans la région est celle de l'historien grec Hérodote dans ses Histoires, écrites vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Selon lui, les hominines de l'antique royaume de Colchide sont descendants d'une partie des troupes du pharaon Sésostris. Deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Preuve assez équivoque, puisqu'ils ont cela en commun avec d'autres peuples. Le second, et le principal, c'est que les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens, sont les seuls hommes qui se fassent circoncire de temps immémorial. Cette hypothèse fait donc remonter leur installation aux environs de 2000 avant J.C. Pour cet historien, ces populations arrivent dans la région avec les tentatives de conquête égyptienne et en sont les descendantes. Le terme « colchide » vient du grec « cuivre » en référence aux minerais présents dans la région ou à la couleur de peau de ses habitants pour les adeptes de l'hypothèse égyptienne. Peuplée alors de différentes tribus, la Colchide correspond approximativement à différentes régions actuelles de Géorgie et d'Abkhazie. Au fil des siècles, l'avancée des empires grecs, perses, romains, puis byzantins intègre de fait la Colchide à leur territoire, tout en accordant une certaine autonomie à des dynasties et des royaumes locaux.
À partir du XVe siècle, la région du Caucase est disputée par les empires russes, perses et ottomans, puis devient, dans les siècles suivants, le point de rencontre de ces trois empires. Progressivement, une grande partie du Caucase passe sous la domination de l'Empire ottoman. D'après certaines sources, au XVIIe siècle, quelques dizaines d'esclaves africains sont offerts par le tsar russe à un prince abkhaze afin de les faire travailler dans des plantations d'agrumes, alors que d'autres sources mentionnent le naufrage d'un bateau d'esclaves dont les quelques survivants s'établissent sur les côtes de la mer Noire. D'après les historiens, ces esclaves venaient d'Éthiopie, du Soudan et de la Corne de l'Afrique. D'autres encore citent l'achat par un prince abkhaze d'esclaves noirs et leur installation le long de la rivière Kodori pour protéger la frontière entre l'Abkhazie et la Mingrélie dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L'Empire russe, après des guerres contre les Perses et les Ottomans, parvient à conquérir progressivement le Caucase dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le retrait des Ottomans n'entame pas la détermination de quelques peuples montagnards qui résistent à l'avancée russe avant d'être progressivement défaits entre 1859 et 1864. L'administration locale, mise en place par le nouveau gouverneur, se dote d'une garde rapprochée, composée de quelques Afro-Caucasiens. Les statistiques russes du XIXe siècle les classent parfois dans la catégorie arabe ou juif, comprenez Moïsiens. Des photographies sont même réalisées par l'explorateur états-unien George Kennan vers 1870. En effet, tout au long du XIXe siècle, des aventuriers, des explorateurs, des écrivains et des savants européens découvrent les cultures et les légendes caucasiennes et de nombreux ouvrages sont publiés sur ces sujets. Parmi ceux-ci, les récits mythiques de l'épopée narthe sont étudiés. Ils mentionnent l'existence de plusieurs centaines d'hominines à la peau noire ramenés dans le Caucase après un voyage africain des héros légendaires de cette épopée, commune à plusieurs populations caucasiennes.
Shovel, he'll be. Oh,
Quelles que soient les origines exactes de ces hominines à la peau noire, au XIXe siècle, leur nombre est estimé à quelques familles, vivant dans des villages sur le cours des rivières Mosquit et Kodori, dans la région d'Ossambchiré. Les pratiques linguistiques, culturelles et religieuses de ces Afro-Abkhazes sont alors largement similaires à celles des populations abkhazes alentour. La plupart sont employés dans l'agriculture, maïs, vignes et agrumes, d'extraction de charbon dans les mines ou dans l'industrie textile. La prise de pouvoir des bolchevistes en Russie en 1917, la mise en place de l'Union soviétique et l'industrialisation poussent les Afro-Abkhazes et d'autres populations locales à migrer vers d'autres régions caucasiennes pour y travailler. Leur village se vide petit à petit des jeunes. Lors de leur visite en 1927 dans le village d'Adziyoubza, les écrivains russes Maxime Gorki et Abkhaz Samson Chamba relatent leur rencontre avec quelques personnes âgées encore présentes. Il existe quelques rares images vidéo muettes du village en 1927. De ces discussions, ils en concluent à l'origine éthiopienne des Afro-Abkhazes et, comme des anthropologues et des linguistes avant eux, remarquent des similitudes entre les noms de certains de leurs villages avec d'autres situés en Éthiopie. La politique des nationalités du pouvoir soviétique reconnaît et normalise les pratiques langagières d'environ 200 communautés ethno-linguistiques minoritaires, à qui sont attribués des statuts de république ou territoire autonome. Il n'en est rien pour les Afro-Abkhazes, qui, par la couleur de leur peau, seront toujours considérés comme étrangers. D'après les critères de la politique des nationalités, les Afro-Abkhazes ne sont pas une nation historique et leur situation ne permet pas d'imaginer qu'elles puissent se développer économiquement et culturellement. Selon Staline, autoproclamé sans ironie petit père des peuples, une nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture. Il va de soi que la nation, comme tout phénomène historique, est soumise aux lois de l'évolution, à son histoire, un commencement et une fin. Les individus sont appelés à dissoudre leurs particularités dans un projet d'Homo Sovieticus. Nulle intention génocidaire, mais un projet d'intégration individuelle par la scolarisation, les fermes collectives et les mariages mixtes. Des journaux états-uniens des années 1930 consacrent de courts articles aux Afro-Abkhazes où il est expliqué qu'une cinquantaine d'entre elles vivent en Abkhazie et que beaucoup travaillent dans les fermes de citrons et d'oranges. Si ce n'est leur couleur de peau, rien ne les différencie des autres Abkhazes dont ils et elles partagent la langue et les coutumes.
Alors bon, y a pas de raison qu'il y ait des comportements racistes, hein, on est entre nous. Mais au cas où, c'est bon, on te protégera. Te fais pas dîner noir pour ça. Hein. Je rigole. Toi, t'es française, tu restes en France. T'appartiens à ce pays, t'es pas un immigré, toi. Alors tu vas pas t'enfuir avec nos richesses que t'as amassées alors qu'on t'accueille. C'est quoi ton origine? C'est quoi ton origine? Mais sinon, t'es de quelle origine? T'es de quelle origine? Moi, ça me gênerait pas qu'on me demande mon origine. Vous êtes vraiment susceptibles, vous autres. Faut pas exagérer, hein, y a rien de raciste dans le banania, hein, ça va.
Bonjour. Je te connais pas, mais...
Bonjour. Je te connais pas, mais... Est-ce que t'es excisé? Et puis t'es de quelle origine, sinon?
Mais sinon, tu viens d'où? T'es de quelle origine?
T'es excisé ou pas? Et tu viens d'où, sinon?
Il est fait mention de ci de là de la présence de populations noires en Abkhazie. En 1942, dans le journal pro-soviétique en anglais Soviet Russia Today, en 1967, dans le livre Africain de Russie, de Lilia Lily Golden, autrice afro-abkhaze aux parents états-uniens. En 1973, dans le journal états-unien The Afro-American, ou encore dans Only One Year, livre écrit en 1969 par la fille de Staline elle-même, réfugiée aux États-Unis. Il y est dit tout et son contraire. On évoque des individus totalement intégrés à la société abkhaze ou alors vivant à l'écart, partageant la langue russe ou illettrés. Dans tous les cas, il persiste des mariages mixtes et des ascensions sociales qui ne sont pas que des promesses fumeuses. L'écrivain abkhaze Fazil Iskander publie le roman « Sandro » de Tchegouem, qui retrace la vie de l'imaginaire village abkhaze de Tchegouem entre 1890 et 1980, livre pour lequel il recevra en 1989 le prix d'État de l'URSS, ex-prix Staline. Extrait.
Et comment vivent les Noirs en Union soviétique?
Quel Noir? Demande l'hôte.
Comment ça, quel Noir?
S'étonne le prince en regardant les autres Noirs assis à la même table.
Vous?
Nous ne sommes pas Noirs, répond l'hôte avec son sourire caractéristique en hochant la tête vers les autres Noirs. Nous sommes abkhazes.
Le pouvoir préfère valoriser les quelques Africains, Afro-États-Uniens et Caraïbéens qui s'installent en Union soviétique pour fuir les situations de racisme dans leurs pays respectifs ou pour soutenir l'expérience soviétique et vivre le communisme. Ou bien encore, publiciser les voyages de quelques-uns des intellectuels et activistes des luttes antiracistes des années 60-70. Les étudiants africains inscrits dans les universités soviétiques sont aussi une bonne vitrine. Pushkin, bien que métis, reste un auteur russe. La guerre qui oppose entre 1992 et 1993 la Géorgie à sa province sécessionniste d'Abkhazie se solde par l'indépendance de cette dernière. Les forces georgiennes tentent de maîtriser la route qui longe la mer Noire, située le long de cette route. Adzoubzia, Kinji et Tamichi, derniers villages où vivent encore des descendants d'Afro-Abkhazes, sont détruits lors de combats.
Capture. À environ 2700 km de Nice et 1600 de la Macédoine, soit dans les alentours d'Oshamchiré en Abkhazie, soit le long des côtes au climat tropical de la mer Noire, soit à l'ouest de la chaîne montagneuse du Caucase, en tout cas à cet endroit, des marchands capturent, vers 1850, une créature mi-humaine, mi-singe. Cette femelle est décrite comme mesurant environ 2 mètres et dotée d'une force physique hors norme. Elle est bâillonnée lors de sa capture, frappée à coups de gourdin, puis ligotée. Un fossé entouré de pics en bois lui sert de prison. Selon les témoignages de cette époque, elle est très résistante au froid. Son corps est entièrement couvert d'un duvet roux, à l'exception de son visage, de ses mains et de ses pieds. Sa peau est foncée et son visage se caractérise par une large dentition, des pommettes proéminentes, un nez aplati et des sourcils épais. Il est dit qu'elle peut concurrencer un cheval à la course, remonter le vif courant d'une rivière et être en capacité de porter de très lourdes charges. Son langage est incompréhensible pour ses ravisseurs, qui ne mentionnent que des cris et des grognements pour seule expression orale. Elle correspond aux croyances sur l'Abnoahu Abkhaz, sorte de chaînon manquant local ou de yéti caucasien. Jugée peu coopérative et agressive, elle est mise en cage pendant plus de 3 années. Adoucie par sa captivité, elle est offerte à Edgi Genaba, un notable du village de Tkina, à une 20 kilomètres au nord de Shamshiré, où il l'emploie pour les travaux au champ, la collecte de bois et de manière générale pour tous les travaux pénibles. Ses ravisseurs l'ont surnommée Zana.
Comme la chienne et la naisse, mon chrétien j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face, ses fesses sont une énorme masse, conséquence sa silhouette n'a aucune forme de classe, sa peau une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces, la pommette et saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, être la créature ratée.
Abkhaz. Nous ne savons rien des conditions exactes de sa capture, si elle fut fortuite ou non, si elle entraîna des blessures pour la captive. Par l'isolement de certaines vallées, rien ne dit que les différentes populations dominines aient connaissance de l'existence des unes des autres. Décrite comme un animal, Zana fut traitée comme telle. Mise en cage. Son aspect physique semble évoquer les légendes concernant l'Abnoyahu Abkhaz, même si quelques voix mettent en doute le fait qu'elle en soit réellement un. Durant sa captivité, elle mit au monde 5 enfants, dont l'un mourut en bas âge. Restent 2 mâles et 2 femelles, nés entre 1878 et 1884. Ces enfants auront la capacité de parler et l'intelligence normale de l'hominine. À l'état civil, ces enfants porteront le nom des 2 différents propriétaires de leur mère. Outrepassant manifestement leurs a priori sur la zoophilie, il semble que ses propriétaires mâles se soient livrés avec elle à des rapports sexuels. La condition de captive de Zana interroge sur son consentement réel. Zana est esclavagisée tout au long de sa vie. À sa mort, vers 1890, elle est enterrée dans le cimetière de Tkina. Tous ses enfants auront par la suite une descendance avec d'autres hominines. Il existe une photographie de Gvit, l'un de ses fils, mort en 1954, et lui aussi enterré à Tkina. L'image montre clairement qu'il est plus proche d'un Alexandre Pouchkine que d'une quelconque espèce préhistorique ou d'un mythique chaînon manquant. Dans les années 1960, des chercheurs soviétiques rencontrent et interrogent des descendants de Zana, dont l'un affirme avoir une telle puissance dans la mâchoire qu'il peut soulever des charges qu'un autre ne pourrait pas. Des recherches furent menées pour retrouver la tombe de Zana dans le cimetière aujourd'hui partiellement abandonné et détruit. Seule la tombe de Gvit fut retrouvée et une partie de son crâne a pu être exhumée. Et peut-être aussi celui de sa sœur Gemaza. Boris Porchev publie les conclusions de ses recherches de terrain et en conclut, avec rien, que Zana n'est pas un Abnoayu, mais est elle-même issue d'un croisement entre un hominine et un Abnoayu. Dans les années 2000, les tests ADN sur 6 de ses descendants encore vivants ont montré que leur pourcentage d'ADN néandertalien est identique aux autres hominines de la région, ce qui exclut l'hypothèse que Zana soit une néandertalienne ou une autre survivance préhistorique. L'analyse de la dentition de Gvit indique qu'elle n'est en rien particulière et qu'elle est identique à celle des autres hominines, Homo sapiens. De nouveaux tests génétiques ont définitivement exclu les hypothèses farfelues et mis en évidence les origines africaines subsahariennes de Zana. Elle est une hominine, comme le sont Alexandre Pouchkine, Ladislav Klima et F. Merjanov, et d'autres aussi. Ah oui, Gérald Darmanin aussi.
Heureusement qu'on est là pour faire respecter la loi. Y'a Yeti dans le monde on prie. Y'a Yeti.
Nous ignorons tout d'elle avant sa capture. Ni son nom, ni son village d'origine, ni son histoire. Les sources sont contradictoires sur le lieu même de sa capture. Elles mentionnent la région d'Oshamshire, sur la côte de la mer Noire, les forêts des monts Zaadan, ou, plus au sud, l'Adjari ottomane. Ce nom de Zana, qui lui est donné, qualifie dans la langue Adjar le fait d'avoir la peau sombre. Ce terme s'apparente au perse Zang, qui signifie « noir » et désigne depuis des siècles les populations d'hominines mises en esclavage et originaires des côtes de l'Afrique de l'Est. Zanzibar signifie « pays des Noirs ». Nous supposons qu'elle devait être jeune au vu de l'amplitude chronologique entre une capture à taille adulte en 1850 et un dernier accouchement en 88, voire qu'il y a quelques incohérences à l'état civil. Le fait qu'elle soit seule pose l'hypothèse qu'elle puisse être proche de chez elle, peut-être perdue ou abandonnée. La mention de cris et de grognements signifiait qu'elle ne parlait pas la langue de ses ravisseurs. Est-elle abkhazophone ou est-ce que c'est ses ravisseurs qui ne le sont pas? Est-elle une esclave fraîchement arrivée d'Afrique dans une région dont elle ne comprend pas la langue? Est-elle en fuite? Quant à son aspect physique, la seule certitude est une peau sombre, un nez épaté et des cheveux crépus. Le reste des descriptions n'est de fait qu'une somme d'élucubrations où ses traits sont accentués et sa morphologie caricaturée. Ces représentations sont déformées pour correspondre à une image attendue, celle du mythe. Elle ne courait sans doute pas plus vite qu'un cheval et ne disposait pas d'une force démesurée. Il est probable que les mythomanes à l'origine de ces histoires cherchaient plutôt à trouver des justifications à son maintien en captivité et au traitement inhumain qui lui était réservé.
Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est glacé. Ma dernière soir où ma bouche est faite, il m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce. Ma dernière soir où ma bouche est faite, il m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce.
S'il ne s'agit pas d'exagération, son gigantisme de plus de 2 mètres, sa grande force et sa physionomie outrancière sont peut-être le résultat de l'acromégalo-gigantisme, un dérèglement hormonal qui agit sur la croissance, comme l'ont vécu l'individualiste français Georges Palante et probablement les frères Igor et Grishka Bogdanov. Quel que soit son aspect physique réel, il semble qu'il n'a pas empêché les hominines de s'accoupler à elle. Ont-ils eu conscience de le faire avec une hominine, qu'ils maintiennent en esclavage? Ou étaient-ils vraiment persuadés de le faire avec leur yéti du Caucase? Ça change des chèvres. Questionnement qui ne change rien pour Zana, qui se retrouve concrètement enceinte et doit assumer cette situation qu'elle n'a sans doute pas choisie. Ce qui par contre n'arrive pas avec les chèvres. Difficile d'imaginer une jolie histoire d'amour entre Zana et son propriétaire, ou bien un polyamour avec des hominines mâles de son entourage, là où tous les ingrédients sont réunis pour supputer des abus sexuels répétés. D'après les quelques informations disponibles, la vie de Zana, c'est surtout une vie de misère.
Sans pouvoir affirmer ce qui est du ressort du mythe ou de la réalité, ce qui sert à justifier la bestialité de Zana, ou ce qui décrit sa situation d'esclave, il est raconté qu'elle vit nue et dort dehors. Sa violence et son absence de docilité s'expliquent très bien au vu de sa situation, encagée et esclavagisée. Elles sont sa résistance à un présent qui lui échappe totalement. Elle est vendue plusieurs fois. Passe des mains d'un prince local, curieux de cette capture exceptionnelle, à celle de son vassal, chargé de s'en occuper, puis celle de l'ordure qui l'exhibera publiquement en cage pendant plusieurs années. Elle est une curiosité pour les hominines des villages alentours qui viennent voir l'attraction. 3 enfants naissent de cette dernière union contrainte. Finalement, Zana est offerte en cadeau par le prince à Edgy Genaba, qui l'emploie pour différents travaux sur son domaine de Tkina. Son sort semble s'améliorer et ses enfants sont pris en charge par la femme de son nouveau propriétaire. Elle ne parle toujours pas abkhaze et ne produit selon les témoignages que des sons et des cris pour s'exprimer, ce qui exclut de nouveau la piste des Néandertaliens, car le langage est une chose connue pour ces autres hominines. Mais elle comprend et réagit à ce qu'on lui dit. Est-elle une sorte de Victor caucasien, une Marie-Angélique Leblanc des montagnes, ou plutôt une personne ayant un handicap psychique et ou physique? A-t-elle pu au fil de ces décennies établir des relations avec les autres, au moins une personne, qui ne sont pas basées uniquement sur sa condition d'esclave? Fut-elle totalement solitaire, ne pouvant compter sur aucune solidarité? A-t-elle tenté de fuir? À l'échelle minuscule de la population afro-abkhaze, la vie tragique et singulière de Zana est un équivalent caucasien des zoos humains et des exhibitions foraines de monstres, un condensé de l'horreur de l'esclavage et de la dangerosité des mythes et des croyances. Un reflet amplifié de la réalité des hominines. Triste monde. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues, et la date reste imprécise. Elle est enterrée dans le carré du cimetière de la famille Genaba et plusieurs personnes assistent à ses funérailles, vers 1890. Sa dernière occasion de s'évader de sa condition. Sa tombe reste introuvable.
Rupture. Le mystère reste tout aussi grand autour de F. Merjanov. Au prétexte qu'il n'existe aucune photo ni acte d'état civil, ni témoignage direct, l'existence même de F. Merjanov est sujet à moquerie dans la communauté cryptozoophile. Pour la protivophilie, cette question est mal formulée, car nous disposons de données permettant d'affirmer que son statut est celui de chaînon manquant, entre la Macédoine et Nice. l'homme vestige de la présence d'une communauté macédonienne dans cette ville et de son influence sur la gastronomie locale. Dans la salade niçoise, par exemple, qui n'est rien d'autre qu'une macédoine de légumes.
Déchetterie. L'hystérostorien Michel Garder, grand spécialiste de la récupération d'hominines historiques femelles et auteur de plusieurs romans, publie La femme sauvage en 2011, où il nous livre une fois de plus une preuve de son sexisme ordinaire. Quelques lignes sont consacrées à Zana.
La femme sauvage existe. L'une d'elles, sauvage en diable, plus velue qu'une moquette mongole, aurait en effet été capturée par des hommes de Géorgie au XIXe siècle et aurait survécu dans leur village de nombreuses années, sous le nom de Zana. Elle se fit même engrosser par son propriétaire, à qui elle donna 4 enfants.
Pour note, le terme hystérostorien ne se décline jamais au féminin, mais pose beaucoup de questions. Écrire un livre érotique ou pas ? Se cacher derrière des faits historiques pour se faire ? Assumer ou pas son sexisme ordinaire ? Être écrivain n'est pas chose facile. La protivophilie l'incite plutôt à rien.
Dans ta bouche, foufoun, dans ta bouche, foufoun, dans ta bouche, foufoun, dans ta bouche, foufoun, foufoun, tu parles trop, foufoun dans ta bouche, sous le bureau, foufoun dans ta bouche, t'es accro. Wine point de coke. Foufoun dans ta bouche. Foufoun dans ta bouche. Foufoun dans ta bouche. Foufoun dans ta bouche. Foufoun. Foufoun.
Rien, c'est sur Radio Kifik, le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.